Donc, cette paracha de Kitavo, elle commence, comme son nom le dit, Mehaya Kitavo. Donc, on va parler de ce qu'il faut faire, c'est Moshe Rabbeinu qui parle. Quand vous arriverez, elle, Aaretz asher Hashem Elokecha, Noten lecha nachala virishta veyashavta. Alors, c'est quelque chose de qui se trouve aussi dans d'autres parchiotes, c'est cette idée de je te donne, Hachem Elokecha te donne cette terre nachala virishta. Tu vas en hériter. Ça devait être cette manière-là. Avraham Avinu, au début. J'aime lui parler aussi tout de suite de Roucha, Irishta. Qu'est-ce que ça veut dire de plus que de dire que Hachem dit à Avraham Avinu, je te donnerai. Comment ça ne marche pas? Je te donnerai ta descendance. Voilà. Donc, cette paracha, elle parle d'une notion d'Yerusha. Je me suis demandé quelle était la différence entre le Zaracha à ta descendance et puis ce qui est dit à Abraham qu'il va en hériter. Alors, on peut peut-être penser que la différence entre les deux, le Zaracha, ça veut dire je donnerai ça à ta descendance. Et on peut penser, je le donnerai à ta descendance s'il le mérite. S'il ne le mérite pas, ce sera toujours à ta descendance, mais peut-être pas cette génération, ce sera une autre génération, etc. Par contre, dans la Yerusha, le processus d'héritage, il est complètement indépendant de la valeur des gens. Même un rachat, il hérite de son... de son père. Même s'il est apicoré, c'est ce que vous voulez, il hérite. Ça n'a rien à voir avec le mérite. Le donner à la descendance, peut-être que ça nécessite cela. Bon, ce n'est pas très, 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 très bon comme explication parce que c'est dit d'Abraham aussi que lui aussi, il aura cela en héritage. Mais il hérite de qui, Abraham Abin? Après, Avraham Avinu peut dire, nous héritons de lui. Mais Avraham Avinu, sa Yerusha, de qui hérite-t-il cette terre? Il a, Hachem lui a donné, il l'a donné en héritage, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, est-ce que là aussi, il faudra dire, il le lui a donné, bien qu'Avraham ne soit pas complètement à la hauteur d'avoir cette terre, mais ça, pour pouvoir le dire, il faudrait plutôt que je sois dit dans Chazal plutôt que je sois dit par moi. Ah, voilà encore des visites. Bon, alors laissons cette question de côté. Quand on nous dit, quand vous arriverez en Eretz Israël, voilà ce que vous allez faire. La première mitzvah qui est proposée ici, c'est Velakarta mereshit kol pri ha'adama, asher tavi me'artzecha asher Hashem Elokecha noten lecha, v'samta batene, v'alachta el ha'makom asher yivchar Hashem Elokecha, l'shaken shmo sham. La mitzvah, c'est la mitzvah de Bikurim. Alors, quand on lit le texte, on a l'impression que c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir faire dès qu'ils arrivent en Eretz Israël. Mais il faut se souvenir que quand ils arrivent en Eretz Israël, il y a d'abord 7 ans de guerre, ensuite 7 ans pour partager la terre, jusqu'à ce que quelqu'un ait un lopin de terre, puisse le cultiver, que ça puisse produire les premiers fruits dont on va amener les prémices, les bikourim. Donc c'est pas immédiat, ça va prendre un certain temps jusqu'à ce qu'il puisse le faire. Mais c'est intéressant de voir que on présente l'arrivée en RSL comme étant ce qui va permettre de faire la mitzvah de Bikurim. Mais cette mitzvah de Bikurim, elle est décrite comme se faisant. Tu vas aller au Beth Amikdash. Ubata el Kohen asher yeh bayamim ahem. Et tu iras vers le Kohen qui sera en service à ce moment-là. Mais Chazal demande, évidemment, je ne peux pas aller présenter mes fruits à un Kohen qui n'est pas de service, qui est plus de ce monde. Donc évidemment, il s'agit d'un Kohen qui est vivant à ce moment-là. Mais nos Chachamim ont dit, alors ce texte-là ne vient pas dire cette chose totalement évidente. Mais comme Rashi dit, En lecha ela kohen she bimecha moshehu. C'est-à-dire, tu t'adresseras au Kohen de ton époque, même si le Kohen de ton époque, tu n'as pas l'impression qu'il est à la hauteur du Kohen de l'époque de ton père ou de ton grand-père, etc. Ça veut dire que il faut faire avec ce qu'on a. On ne peut pas aller chez un autre Cohen que celui qui existe en même temps que toi. Alors, on va apporter ces fruits, les prémices, donc, on les mettra dans un panier. Et le passage dit, le Kohen prendra Atene miyadecha, il prendra ce panier de tes mains, vehinicho lifnei mizbach Hashem Elokecha. Vehinicho lehaniach, et il va le poser devant l'autel d'Hashem, ton Dieu. Alors, on s'attend à ce qu'on nous dise, voilà, il va le poser devant le misbéach. Et regardez Rachid. Rachid dit, il va le prendre de tes mains, le hanif photo. En fait, il ne va pas du tout le poser, il va le balancer devant le misbéach. Et comment est-ce qu'il va le balancer? C'est-à-dire, le Cohen va mettre sa main sous la tienne. Et ensemble, vous allez balancer ce plat de fruits. Et puis, il y a une déclaration. Mais Anita, alors, Rachid dit, pourquoi on dit mais Anita, si on lui, c'est marqué Ve Amarta, on pourrait très bien dire Ve Anita, Ve Amarta. Anita, il ajoute quoi? Si on avait seulement dit Ve Amarta, j'aurais su, voilà, tu diras cela. Tu dis que Ve Anita Bekol Ram. Tu vas le dire à haute voix. Tu ne peux pas le dire timidement comme ça du bout des lèvres. Il faudra le dire à haute voix. Et alors, tu commences par raconter. Qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes à Ami Oved Avi. Littéralement, ça veut dire un araméen a voulu, a perdu, a tué, quoi, mon père. Oved. Alors, le problème, De qui on parle ici? On parle de Lavanne. Et Lavanne, il n'a pas tué Yaakov. Il a voulu le tuer. Mais il ne l'a pas tué. Bon, le texte a l'air de dire ici, Oved Avi, comme s'il l'avait vraiment tué. Rachid dit, Lavan, Bikesh la Akor et Akol, chez Radaf Achar Yaakov. Lavan, il avait eu le projet d'arracher tout le projet divin, quoi, de le faire échouer en tuant Yaakov. Et alors Rachid dit quelque chose de très important ici. Tout ce que dit Rachid, c'est toujours important, mais ici, c'est très important parce que ça nous sort un peu du chat, en fait. Et parce que Lavan a eu le projet de le faire, il a voulu tuer Yaakov. Akadosh Baruch Hu, ici, dans cette phrase-là, il le lui a compté comme s'il l'avait fait. Pourquoi? Chez Umot Haolam, Ovdei, parce que les peuples idolâtres, Akadosh Baruch Hu, Marshava. Parce que pour les goyim idolâtres, Akadosh Baruch Hu considère, en ce qui les concerne, que une pensée pour avoir eu un projet de faire, c'est comme s'ils avaient fait. On leur compte cela comme s'ils avaient fait. Alors, comme Rachid dit, ça c'est seulement pour les Umot Haolam idolâtres. Mais les Bnei Israël, c'est pas comme ça. Akadosh Baruch Hu, si c'est une marchava négative, je ne la compte pas comme si elle avait été réalisée. Alors, il y avait ce projet, et puis tout de suite après, le pasouk dit, Vayered Mitzrayma, il est descendu en Égypte. Qui c'est qui est descendu en Égypte? Jusqu'à présent, on parle de Yaakov. Lavan a voulu tuer Yaakov. Maintenant, il est descendu en Égypte. Qui est descendu en Égypte? Alors là, Rachid dit ce qu'on connaît bien de la Haggadah de Pessah, c'est-à-dire, encore, il y en a d'autres chez Baou Aleinu Lechalotenu, Shachare Zot Yarad Yaakov le Mitzray. Parce qu'après cela, mais beaucoup après, Yaakov est descendu en Égypte. Il n'est pas du tout descendu au moment où Lavan l'a attaqué. Donc il y a un raccourci historique, quoi, ici. Et il a habité là-bas, en Égypte. Et il était là-bas quand Yaakov est descendu en Égypte. Ils étaient très peu nombreux. Shivim Nafesh. Il y a 70 personnes qui sont descendues, enfin, qui étaient en Égypte. Là-bas, il est devenu un grand peuple, Atsum Varav. C'est le texte de la Haggadah de Pessah. Vayareu otanu amitzrim, vayanunu, vaitnu aleinu avodah kasha, vaditzak el Hashem Elokeinu. Avotenu, Vaishma Hashem et Koleinu, Vayaretonienu, Vetamalenu, Vetahatsenu. Quand on dit ça, il y a un goût de matzot dans la bouche. Vayotsienu Hashem, Mimitraim, Biot Chazaka, Vizwan, Touyav, Moragadol, Mesotomoftim. Vayavienu, El Hamakom Azeh. Et Hashem nous a amenés vers cet endroit-là, cet endroit que je montre du doigt, à Makomazé, c'est Beth Amikdash. Alors vous voyez, premièrement, on est en train de nous décrire la mitzvah de Bikurim. Mais on la met en scène alors qu'il y a un Beth Amikdash. Mais le Beth Amikdash, c'est des siècles après. Il n'y avait pas de Beth Amikdash. au départ. Et on dit, Vayavienu el Hamakom hazeh. Il nous a amenés à cet endroit. Makom, c'est un lieu, c'est de même que Makom, ça peut vouloir. Ah, Makom, c'est un nom divin, mais c'est aussi le lieu de la résidence du divin, c'est-à-dire le Beth Amikdash. Vaïten lanu et haaretz hazot, eretz zavat chalav udvash, et il nous a donné cette terre, ce pays, qui est eretz zavat chalav udvash. Et là, on est un peu étonné parce que le passouk qui dit pas du tout les choses dans l'ordre. La terre, il nous l'a donnée bien avant qu'il y ait un Beth Amikdash. Donc, ça veut dire qu'en réalité, toute la terre, sa chachivout, c'est qu'elle va être le support du Beth Amikdash. La terre doit être la résidence d'Hachem. Et quand on est arrivé en Eretz Israël, tout Eretz Israël était la résidence d'Hachem. Mais bon, ça a été concentré à Shiloh, etc. Et puis après, ça s'est concentré encore plus sur le Beth Amikdash. Mais le but de l'exercice, c'était le Beth Amikdash, c'est-à-dire l'endroit de la résidence d'Hachem. Cette résidence, on veut évidemment, c'est le travail du clan d'Israël, étendre la résidence d'Hachem dans le monde entier. En particulier d'abord en Israël. Alors, ici, l'ordre dans le verset, c'est l'ordre de l'importance, c'est pas l'ordre de la, c'est pas la chronologie. En chronologie, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc ça, c'est tout un discours que tient à haute voix le propriétaire des fruits qui a là-bas ses prémices. Et il continue et il dit, Ve'ata, et maintenant, Adama, Ali, j'ai amené les prémices de la terre que tu m'as donnée, Hachem. Et puis après, on est au milieu du discours de l'homme qui amène les Bikurim. Là, il y a un passouk, le passouk continue, il dit, Vinarto lifne tu le poseras devant Hachem Elokecha. Alors, c'est le nouveau anacha, poser. On a déjà vu au début que poser, ça ne voulait pas dire poser. Vinarto, Magid, ça vient nous dire, chez notre après que cela ait été balancé avec le Cohen, qui avait mis, vous vous souvenez, la main sous la main du propriétaire des fruits, et il avait balancé. Après cela, le propriétaire, Ochazobeyado, il prend maintenant le plat de fruits, il le tient pendant que chez Oukoré, quand il lit ce texte-là qu'il a commencé, Aramir, Védavi, etc., tout ça se fait en tenant le plat de fruits dans les mains. De Choser ou Ménif, et il rebalance. Donc, la nacha, c'est toujours avec balancement. On a l'impression que le mot anacha, comme on dit, yanach, toute la notion de menucha, on a l'impression que c'est immobile. Et là, Dafka, c'est des balancements. Donc, tu le balanceras, et ensuite, tu vas te prosterner devant Hachem, Le Samarta becholatov. Et tu te réjouiras avec tout le bien qu'Hachem Elokecha t'a donné à toi, à ta maison et à toutes les gens qui sont alentour, toi, le Lévi, l'étranger qui vit avec toi. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Samarta? Comment s'exprime la simcha en question? Ça veut dire que tu vas te réjouir. Alors, de nouveau, ça nécessite, on ne peut pas prescrire comme ça de se réjouir. Alors, qu'est-ce que dit Rashi? Rashi dit, Mikanambu, de là on a déduit que El Korim Mikra Bikurim et l'Abisman Simcha. C'est-à-dire qu'on lit ce texte des Bikurim, donc on amène ces Bikurim en lisant le texte, qu'à une époque de joie. Mais Samarta, ça veut dire, tu vas lire ça à une époque où tu es en joie. C'est quand l'époque où on est en joie, c'est Me'atzeret Hadachag, entre Shavuot et Sukkot. Pourquoi? Parce que durant cette période-là, Adam melaket tvuato ou perotav ve'yeino ve'shamno. Parce que c'est l'époque où on récolte, où l'homme récolte à la fois ses céréales, ses fruits, son vin, enfin il fait son vin, son huile, l'huile d'olive. Donc vous voyez, ça, c'est quelque chose qui est très important parce que la Torah, elle dit, comment est-ce qu'on se réjouit un peu? Il faut avoir une raison presque naturelle pour se réjouir. Alors, tout le monde se réjouit quand il a le privilège, la bracha d'avoir pu récolter, il est en train d'engranger et de mettre dans ses réserves, etc., tout ce qu'il a produit dans cette année-là, donc naturellement, il va se réjouir. Mais du coup, quand tu as de raisons naturelles de te réjouir, attendez, là, il est clair. Okay. Quand tu as des raisons naturelles de te réjouir, la Torah, elle dit, utilise cette joie-là et investis cette joie dans quelque chose de spirituel. Investis cette joie ici dans la déclaration que tu fais pour remercier Hachem. Ça va être la même chose. Pourquoi Sukkot et Zman Simchateinu? Parce que justement, Sukkot, c'est le moment, c'est le point culminant, ce qui venait de la récolte au sens large du terme. Donc tout le monde est joyeux. On te dit, cette joie-là, investis-la dans la réjouissance avec Hachem. Donc ce n'est pas tu vas appuyer sur un bouton et tu vas te réjouir avec Hachem. Non. Là, il faut. On prend de la joie existante et on l'investit. On ne peut pas la créer de toutes pièces. Sinon, ça revient à sauter sur place. Je veux dire, c'est pas sérieux. Là, vraiment, c'est la joie qui est naturelle à investir. Pardon? Non, une bracha, quand il y a une bracha, le fait de faire la bracha, en général, le bracha, ça veut dire, on demande à Hachem d'amplifier. Donc Hachem, ça c'est le encore. C'est-à-dire, Hachem nous a donné et on voudrait amplifier le rôle d'Hachem en tant que nous donnant les fruits de la terre, des arbres, la maisonnotte, de la nourriture, etc. Donc ça, c'est juste quelques remarques sur cette première mitzvah qui est citée ici comme la mitzvah vers laquelle on va quand on entre en Eretz Israël, bien que cette mitzvah, d'abord, elle se fait pas immédiatement, puis en plus, elle est mise en scène à un moment où il y a un Beth Amikdash, c'est-à-dire des siècles plus tard. Il y avait peut-être des bikourim avant, mais ce qui est décrit ici, Rachid aurait pu dire que c'est pas au Beth Amikdash, il aurait pu dire c'est au Mishkan, etc. Peut-être à Shiloh, etc. Alors, on va sauter un peu et on va s'arrêter un peu sur le début de Shlishi, c'est-à-dire au Passouk Tet Zayin, chapitre 26, verset 16. Voilà, c'est des psukim très importants, enfin, très importants, mais Pasuk dit, Ayomazé, ce jour-là, ou ce jour-ci plutôt, Hashem Elokecha Metzavcha Laasot, et ta chukim haele, et ta mishpatim, le shamarta veasita otam, ce jour-ci, Hachem ton Dieu t'ordonne de la sorte de faire, de pratiquer ces chukim-là, ces décrets et ces lois mishpatim, des lois logiques, le shamarta ve'asita otam. Et tu les garderas, ça veut dire que tu les étudieras et tu les pratiqueras, b'chol levavcha ou b'chol nafshecha, de tout ton cœur et de toute ton âme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ce jour, Hashem Elokecha t'ordonne, on a traduit, mais bon, c'est une traduction comme ça. Rashi d'abord. Ayom azeh Hashem Elokecha Metzavcha. Aujourd'hui, Hashem, ton Dieu, c'est Moshe Rabbeinu qui parle toujours, oui. C'est intéressant que quand il leur parle, il ne dit pas Elokeinu. C'est étonnant que Moshe Rabbeinu ne dise pas Elokeinu. Ça veut dire Elokecha. Rashi dit, Ayomazé, Hashem Elokecha, Metzavcha. Rashi dit, pour Rashi, le mot Hayom, c'est quoi? Quand on dit Hayomazé, c'est quoi? C'est le, c'est Tu Bishvat, c'est quoi? C'est Yom Kippour, c'est quoi? Rashi dit, non, c'est Bechol Yom. Hayomazé, c'est le Bechol Yom. Et alors, on peut pas, quand on dit que Hachem t'ordonne, mais Hachem il nous a ordonné ça déjà bien longtemps avant, Moshe Rabbeinu, il ne dit pas ici de toutes nouvelles halakhot. D'abord, toutes les halakhot, elles ont été données au Sinaï. Ensuite, elles ont été répétées, etc. Qu'est-ce qu'il nous dit là, ce texte? Aujourd'hui, Hachem t'ordonne. Parce que Bechol Yom Yiyu Be'enecha Chadashim. Ki'ilu bo bayom istavita aleihem. Donc ici, Rashi donne une dracha, en fait. Il dit, en fait, tous les jours, les mitzvot doivent être, à tes yeux, tu dois les voir, comme si tu venais de les recevoir. Comme si jamais tu as fait tu as pratiqué ces mitzvot. Tu viens de les recevoir. Il faut la joie, l'entrain, etc. qu'on a quand on fait quelque chose qui est tout nouveau. Ça, c'est Rachid. Alors, on va voir d'autres mefarshim sur Ayomazé. D'abord, le Ramban. Le Ramban dit, Hine, Ishlim Moshe, Leva'er et ta Torah. Moshe Rabbeinu a terminé de clarifier la Torah. Ou le Chadesh kol ha-mitzvot, asher tziva oto Hashem, le Chadesh lahem. Et il a renouvelé, c'est-à-dire il a réinterprété, il a donné des sens supplémentaires, etc., toutes les mitzvot qu'Hashem lui avait ordonné d'être le Chadesh. Ou le Kach, c'est pour ça. Amar hayom hazeh Hashem Elokecha metzavcha la'asot tachukim haleh et tamishpatim, qui kvar, il leur dit, voilà, faut comprendre comme ça, kvar ishlamti lecha hakol. Maintenant, à la limite, étant donné que je t'ai donné la totalité des mitzvot, alors chaque mitzvah, elle a un sens différent maintenant, dans la mesure où tu vas l'insérer à l'intérieur de l'ensemble des mitzvot. Comme les mitzvot ne sont plus séparés les unes des autres, je t'ai donné la totalité maintenant. Tu as une vue d'ensemble aussi de l'ensemble des mitzvot. Et donc, le Ramban, il n'a pas voulu dire que c'était Ayom, c'était tous les jours. Le Hayom de Moshe Rabbeinu, c'est un jour bien précis, le jour où Moshe Rabbeinu parle pour lui. Et c'est un jour tout à fait spécial, parce que c'est un jour où, puisqu'on a la totalité de la Torah, alors on peut dire, voilà, maintenant je te donnais la Torah avec dans sa totalité, en quelque sorte. Et le pasuk dit, Veshamarta ve'asita otam v'chol levavcha v'chol nafshecha. Ve'alev ve'anefesh. Donc, lev, le vavcha, et le nefesh de nafshecha, par pirashtim, j'ai déjà expliqué, dit le Ramban, ce que ça veut dire. Donc, on va maintenant revenir là-dessus. C'est chol vavcha, chol nafshecha, chol vavchem, ça, on a vu ça dans Kriyat Shema, dans Vaaya. Le Ora Chaim d'abord, maintenant. Le Ora Chaim, il dit, Ayom hazeh, alors, il dit, Ayom, on me savait, sauf Arbaim Shana, est-ce que il est en train de, c'est maintenant, après 40 ans, ça fait 40 ans qu'ils sont dans le désert et qu'ils ont reçu la Torah. Alokvar tziva be'aras be'ar Sinai. V'Rashi zal pirash she'atorah ba'al lomar b'chol yom yu be'enecha chadashim. La Torah, elle vient dire que doit être tous les jours nouveau. Nireh, dit Or HaChaim, she'kavanat ha'katuv hi al zeh ha'derech. Que l'intention du verset, il faut l'entendre comme ça. Le fiche est que la Torah tzivaota Hashem Be'ar Sinai, ben dvarim sheyesh ba'em kum ase be'oto zman, toute la Torah elle a été donnée au Sinaï. Que ce soit les mitzvot qu'on pouvait faire immédiatement à l'époque du Sinaï, בין דברים שאינם בקומה סאלה לאחר זמן, ce soit des mitzvot qu'on pourra faire que beaucoup plus tard, l'exemple ici des bikurim, par exemple, que otam ha'amorim be parshazot, bikurim, ma'asrot, she'enam no'agim ela c'est des mitzvot qui sont liés à la terre d'Israël. Alors, tout ça a été donné au Sinaï. Vetziva Hashem otam, agam she'lo haya zmanam. Et Hashem les a ordonnés bien que ce ne soit pas le moment de faire ces mitzvot, dit l'Ohri. Mitam. Alors, pourquoi il les a, pourquoi il nous a donné des mitzvot qu'on ne peut pas faire? Mitam kede vilmodotam. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas les faire. Mais on peut les étudier. Ça veut dire que il y a aujourd'hui aussi, pour toutes les mitzvot, il y a une mitzvah de les pratiquer, mais il y a une mitzvah de les étudier. C'est comme ça qu'il faut entendre toutes les mitzvot que nous ne pouvons pas pratiquer. Mais il faut les étudier. Si vous voulez, la mitzvah qu'on peut pratiquer, c'est simplement que là, on peut aller jusqu'au bout. Mais la mitzvah, elle commence sous forme de limoud dès qu'elle a été dite. Donc c'est important pour nous aussi aujourd'hui. Avant, c'était parce qu'on ne pouvait pas encore, et nous, on ne peut plus. Alors, on peut peut-être pas encore non plus. Donc, c'est pour que on étudie ces mitzvot. Et au le kabel sachar al kabbalatam. Et lui, il ajoute, c'est pour que on bénéficie de une récompense, en quelque sorte, pour avoir accepté ces mitzvot. Donc, d'après ce qu'il dit, il y a trois choses. Il y a l'acceptation de la mitzvah, l'étude de la mitzvah, et la pratique de la mitzvah. Ve'amar lahem Moshe, ki hen hayom, Moshe Rabbeinu leur dit, oui, aujourd'hui, pardon, pardon, אין היום משה מצווה אותם לעשות הפקים האלה, משה רבינו לא אורדון דופר שחוקים לה, שהם ביקורים ומעשרות, שעד היום נצטוו ללמוד דיניהם לבד, qui jusqu'à présent, au moment où Moshe Rabbeinu nous parle, ça n'a été donné que pour qu'on les étudie, mais pas du tout pour qu'on les pratique. Alors pourquoi il leur dit la'asot? Pourquoi il parle de faire, puisqu'on n'est pas en train de faire? Parce que Moshe parle au moment où ils vont entrer en Eretz Israël. Donc il leur dit, maintenant, vous allez pouvoir le faire. Et donc, v'tevat hayom lavdavka. Et donc, il dit, Ayom, ce n'est pas précisément aujourd'hui. Et là, Zman, Zocher Zman Amuchan. C'est-à-dire, il parle du moment où on est prêt de le faire. Donc, il appelle Ayom Azé. Ça, c'est ce que dit le. On va voir maintenant ce que dit Amek Davar, le Netziv. Il dit la chose suivante. Yadua hadrash chez Virashi. On sait bien le drash que Rashi a dit, Aval en mikra yotse midi pshuto. Mais le pasouk, il dit pas ça. Il faut aussi expliquer le pshat du verset. Shem daber be yichud be oto yom sheomed bo. Il dit, ayom, c'est vraiment le jour où on se trouve aujourd'hui. Ou ba la fouke maz shamdu alar sinai ad hayom hazeh. Donc on veut dire aujourd'hui et pas au moment où on était au Sinaï, ni la période entre le Sinaï et maintenant. V'inyan parashazu est le sujet de cette paracha, ou hakdama, c'est une introduction, biur, le kritat brit, sheba acharav, ici c'est une introduction à l'alliance. Il va être énoncé plus bas dans la paracha. Sheba Acharav, qui va venir donc après ce texte-là, Abrachot veHaklalot. Donc, comme vous savez, dans Kitavo, il y a des brachot et malheureusement aussi beaucoup de klalot. Shenikra Brit, Sheba Arvot Moav. C'est ça qu'on appelle le Brit qui a eu lieu beArvot Moav. Et vient s'ajouter ici quelque chose de très élevé. C'est-à-dire, il y a eu un brit au Sinaï. Et il y a maintenant une nouvelle alliance, Barvot Moab. Et cette alliance-là, dit le Nessim, ce n'est pas simplement la répétition de la précédente. C'est quelque chose d'en plus. Aïnouma, Shenizaru, Atar, Al-Shkidat Torah, Lechadesh Ba, Dinim, Al-Pi Klalei Atorah Vedikdukeha, Valide Mishpeteh Atalmud, Shelimed Moshe. Parce qu'ici, il y a la nouveauté, c'est que le Brit, ici, il contient une dimension, la dimension du point de vue d'Ebné Israël, ce que doivent faire l'Ebné Israël, c'est être véritablement investi dans l'étude de la Torah pour renouveler, pour être mechadesh des dinim, pour étudier et en déduire d'autres dinim qui ne sont pas explicites encore. Tout ça selon les règles générales de lecture de la Torah dans le détail et selon les principes de Talmud que Moshe Rabbeinu nous leur a enseigné. Vaïnou, et c'est ça qui est écrit dans Maseret Sota. La Gemara dans Sota, elle traite, elle discute ce problème des klalot qu'il y a dans Kitavo. Bon, elle parle aussi, parce qu'avant, on parle toujours des klalot de Kitavo, mais avant les klalot, il y a les brachot. Il y avait brachot ou klalot, l'ilmod ou l'amed, l'ishmor, v'la'asot. Donc, il y a ces différents niveaux. Étudier, enseigner, l'ishmor, c'est-à-dire garder cela et pratiquer. Par billard nous de Perek Parshat Acharei, à Lishmo. Qu'est-ce qu'on veut dire ici, Veshamarta, Lishmo, tu garderas. Ou Lizkor Mashekvar. C'est l'obligation qu'on a de se souvenir de ce qu'on a étudié. Velasot ou le Chadesh Od. La sotte, ça veut dire ajouter. Et mechadesh encore plus. Ve'afalgav. Et bien que là-bas, on dise, il en va de même au Sinaï. Donc, à peu près, ce qu'il est en train de dire est contredit par la Gemara elle-même, qu'il est en train de citer. L'okashimide, c'est pas vraiment une question. Sherek Moken, De la même manière, il écrit là-bas, Baruch, Bichlal, Baruch, Befrat. C'est aussi marqué qu'il y a Baruch qui s'adresse à la collectivité, il y a Baruch qui s'adresse aux individus, de même, la même chose pour Arour. Barebe Sinaï, l'oniskar Baruch, ve'arour klal. La Gemara dans Sota, elle dit, il y a Baruch, Bichlal, etc. Mais bien au Sinaï, on n'a pas parlé, ni, il n'y a ni Baruch, ni Arour. Ici, dans Kitavo, il va y avoir Baruch et Arour. Mais là-bas, il n'y a pas. Et pourtant, la Gemara dit, v'chen be Sinaï. Même chose pour le Sinaï. Donc, ça veut dire que, et la Betorat, Zerachava, la Madnou, c'est, ça va sur un principe c'est le même mot, brit et brit, donc on apprend ce qu'on peut de l'un sur l'autre. C'est Mikol Makom Nichlal Gam Beoto a brit, c'est Bessinaï Zarimelou. Donc, c'est pour dire que ces choses-là qu'il est en train de nous dire comme étant la caractéristique de l'alliance qu'il y a ici, la Gemara dit, ben, il en va de même pour l'alliance au Sinaï. Et donc, c'est la même chose pour l'Ishmo et la Hassot. Mais l'essentiel des choses est dû, ces choses-là sont, ça fait, c'est le corps de l'alliance qui est faite ici, brite-moi. Donc, c'est ça le sens de la phrase. Hashem Elokecha. Metzavcha la'asot et ta'chukim ha'ele ça veut dire quoi? Ha'amada al tachlit ha'ora. C'est-à-dire, il faut arriver au niveau pour pouvoir fabriquer la loi et la dire, enseigner la loi. Veshamarta, donc on va apprendre Veshamarta, c'est la Mishnah. C'est marqué dans le Sifrim. Alors, lui, il veut dire la chose suivante. Il dit, quand on dit Mishnah, pour nous, la Mishnah, c'est un corpus bien défini. Mais ici, dans ce contexte, le mot Mishnah veut dire, fait référence, si vous voulez, à la chose suivante. Dans notre génération, nous avons reçu de la génération précédente des enseignements. Alors, pour nous, les enseignements de la génération précédente, ils s'appellent Mishnah. Pourquoi? Parce que il faut les répéter, bien les comprendre, pour pouvoir, dans notre génération, aller au-delà, les dépasser. Mais Mishnah, ça veut dire, c'est là. Vous avez la même racine que Stein, que deux. C'est la répétition. Il faut répéter jusqu'à ce qu'on ait vraiment intégré la chose, puisque c'est seulement à ce moment-là qu'on peut faire un pas de plus. Et c'est le travail de l'étude de la Torah de notre génération que d'aller un cran plus loin, approfondir, étendre l'enseignement de la génération précédente. Machenerkar be'ezedor, nase Mishnah la dor haba acharav. C'est ce que Rambam dit dans son commentaire sur la Mishnah. C'est aussi ce que disent Chazal dans la secrétaire Bouvine. C'est-à-dire que ce que David Ameller a produit comme Chidushim, c'est après qu'il ait étudié, il a étudié tout ce qui avait été fait précédemment. Et il a pu ajouter. Et ensuite, dans le passage dit, Vasita Otam. Vashita Otam, on vient de voir. Vashita Otam, l'osif l'arkor aura acheretz. Ou Talmud Becholdor. C'est-à-dire, Vashita Otam, c'est toujours, tu vas ajouter, tu vas creuser les choses et tu arriveras à dire des choses peut-être un peu différemment de ce qui a été dit précédemment. Et ça, dit le Nesiv, ça c'est Talmud Bechol, chez Becholdor. C'est l'étude de chaque génération. Chaque génération va étudier à sa manière, en ayant intégré ce qui a été fait précédemment pour aller de l'avant et définir les choses à sa manière. C'est assez chidouchique ce texte. Enfin, c'est. Alors il dit Bechol Levavcha, c'est-à-dire tu mettras Bechol Cheshek Alev. Il faut y aller avec toute l'envie, y mettre son cœur, ça veut dire il faut s'investir complètement. Et Bechol Nafshecha Nefesh, tu vas y mettre ton âme, parce que la Torah Mitkayemet Ela Bemi Shenoten Nafsho Aleha. C'est une Gemara dans Shabbat qui dit que la Torah, elle ne devient la Torah de quelqu'un que si c'est vraiment investi dans son étude. Et puis ensuite vient un passouk. C'est très connu. Le texte dit, Et Hashem emarta hayom liot lecha l'Elohim, d'une part, et d'autre part, la lechet bidrachav. Non, écris-moi. Liot lecha l'Elohim, oui, c'est ça. ללכת בדרכיו, לשמור חוקיו ומשפטיו, מצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו, ולא תקוטה, והשם האמירך היום להיות לו לעם סגולה, כאשר דיבר לך, לשמור כל מצוותיו. אז איסי יא, une collaboration entre le peuple juif et HaKadosh Baroukh Hou. Le verset commence par dire Et Hashem emarta hayom, liot lecha l'Elohim. C'est-à-dire, alors Rashi dit emarta ve'emircha, en lahem ed mochiach ba'mikra. Ces deux versets, ces deux mots, n'existe pas ailleurs dans le texte. Donc, si vous voulez, on ne peut pas, en comparant le contexte dans lequel ils auraient été dits ailleurs, savoir exactement ce que ça veut dire, Emircha. L'ignorer, si Rashi fait un chat à lui, et il dit, Sheulachon Afrasha Vehavdala, c'est-à-dire, séparation, mise. Ivdalti lecha, me'elohe anechar, liot lecha le'elokim. Ve'u ivchishcha elav, me'amei ha'aretz, liot lo le'am. Le'am zgula, ומצאתי להם עד, והוא לשון תפארת, כמו התעמרו כל פועלי עוול. איסי רשי די, אידי סקיפונס, דוסו ורסה, Il dit que ce qu'il dit ici des deux côtés, c'est le clan d'Israël dit, il s'adresse à Hachem, et il dit, je t'ai singularisé, je t'ai distingué, je t'ai séparé de tous les dieux étrangers. C'est pas, c'est Hachem qui dit, pardon. Hachem dit, je me suis séparé pour toi de tous les dieux étrangers pour jouer le rôle d'Elohim pour toi. Et lui, il t'a séparé, toi, pour lui, des autres peuples, pour devenir son peuple chéri. Donc, ça fait référence à ce qui est dit par ailleurs dans la Torah, où Hachem dit, il annonce que si les bnei Israël se conduisent bien, alors je serai pour vous un Elohim. Et vous serez pour moi un peuple. Pour comprendre. Hachem, il est l'Elohim du monde. Hachem Elohim, il est l'Elohim du monde entier. Qu'est-ce que ça veut dire que on va dire de lui, Eloke, nous, ou bien Eloke, ou Elokai. C'est, comment est-ce qu'on peut dire une chose pareille? Il peut pas être la divinité pour nous. Et quand on dit qu'il est pour nous, c'est comme si on disait qu'il n'est pas pour les autres. Mais c'est pas vrai. Mais Hachem a annoncé la chose suivante. On a déjà vu souvent que tous les peuples ont un Dieu. Tous les peuples ont un Elohim. C'est-à-dire que le flux des bontés d'Hachem qui descend sur le monde entier pour chaque peuple. Chaque peuple le reçoit à sa manière. Donc, si vous voulez, on peut dire, pour chaque peuple, il y a un conduit, un tuyau spécial qui va travailler, qui va modifier, qui va rendre comestible, utile, recevable le flux des bontés d'Hachem pour un peuple bien particulier. Moi, personnellement, pour l'instant, je comprends ça comme la culture d'un peuple. C'est-à-dire que chaque peuple reçoit les choses en fonction de sa culture. La culture, c'est sa langue, sa musique, sa poésie, c'est sa danse, c'est son alimentation, sa façon de se vêtir. C'est le climat qui est le sien, dans lequel il vit, etc. Tout ce qui fait la culture d'un peuple. C'est pour ça que les uns reçoivent les choses d'une manière et les autres d'une autre manière. C'est pour ça que les Anglais diront des Français qui sont des bouffeurs de cuisses de grenouille et que les Français vont dire des Anglais qu'avec leur pudding, ils feraient mieux de se taire. Aujourd'hui, il y a tout un scandale aux États-Unis parce que Trump a dit qu'il y avait des Haïtiens qui mangeaient les animaux domestiques dans l'État de l'Ohio. D'accord, c'est les animaux domestiques là-bas, mais il y a des pays dans lesquels on mange du chien. Alors, qu'est-ce que
Pourquoi pas? Je veux dire, du chien, tu manges n'importe quoi. Chose qui, dans un autre pays, c'est pas mangeable. Aujourd'hui, on fait beaucoup de nourriture exotique. Les gens se forcent, je ne sais pas si je trouve ça tellement bon, mais ça fait bien de manger des trucs qui ne sont pas du tout, ça ne vient pas dans le terroir. Et on n'a jamais mangé ça. Et, bon, mais les gens vont pas manger, s'habituent, peut-être, je sais pas. Donc, ça, c'est l'Élohim de chaque peuple. Les seuls qui n'ont pas un tel Dieu, c'est les Bnei Israël. Nous n'avons pas de Dieu. Ces dieux-là sont d'une certaine manière des intermédiaires entre Hachem et leur peuple. Quand on parle du Dieu de l'Égypte, qu'Hachem a détruit en même temps qu'il a détruit l'Égypte, bon, ça veut dire comment est-ce qu'il a détruit ça? En particulier, par exemple en Égypte et peut-être partout, ceux qui assurent la transmission de la culture, c'est la nouvelle génération, c'est-à-dire c'est les premiers-nés qui sont à la charnière entre une génération et l'autre. Et en tuant les premiers-nés, Hachem a fait en sorte que en Égypte, il n'y avait plus de transmission possible. Ceux qui avaient connu l'enseignement de la génération précédente ne sont plus là pour la transmettre aux autres. Mais Hachem a dit aux Bnei Israël, si vous faites ce que je demande, alors j'accepte de jouer pour vous le rôle d'Elohim. Je vais être votre Elohim. C'est-à-dire que nous, on a le privilège d'avoir pour Eloka, Elohim. En d'autres termes, l'intermédiaire, ben il n'y a pas d'intermédiaire. Mais il accepte de jouer le même rôle, c'est-à-dire qu'il va s'occuper de nous, il va nous aider à recevoir ce qu'il nous donne. Mais d'une certaine manière, comme celui qui va nous donner, quelque part, il va faire en sorte que nous puissions recevoir la totalité, en quelque sorte. On n'a pas besoin de nous amputer de ce côté-là, de ce côté-là, parce qu'on n'est pas capable. Hachem nous a donné une Torah qui va nous permettre de recevoir le flux des bontés d'Hachem. Et d'un autre côté, Hachem peut un peuple particulier. Il n'y a pas. Est-ce qu'il y a un peuple qui peut dire nous sommes le peuple d'Hachem? Est-ce que nous sommes à la hauteur, à une hauteur telle qu'on puisse dire, mais ça veut dire le peuple d'Hachem. Ça veut dire que quand tu regardes le peuple, tu vois Hachem, si on peut parler comme ça. Tu vois ce qu'Hachem veut vraiment, mais c'est on peut pas, c'est impossible. Mais néanmoins, Hachem a dit, je vais vous aider à le faire. Et c'est ça que dit ce verset. Il y a un travail qui vient, qui fait que Hachem peut être l'Éloka du clan d'Israël, et un travail qui fait que le peuple d'Israël peut être le peuple d'Hachem. Et donc, c'est ça que Moshe Rabbeinu nous leur dit. Si vous faites ce que je vous ai dit au nom d'Hachem, alors ça se passe. Et comme vous avez accepté cela, là, du coup, Hachem, quand on accepte quelque chose, Hachem fait comme si on l'avait déjà fait. Bon, ça va dans le contraire de ce qu'il a dit sur les Umot HaOlam. Dans le positif, HaKadosh Baruch Hu valide une intention comme si elle avait été réalisée. Et donc, on dit, voilà, ça s'est fait. C'est fait parce que vous avez accepté. Vous avez accepté ce que je vous ai dit. Là, donc c'est fait.
Merci.
Hein? Bon, il faut la Simcha parce que sans Simcha, ça marche pas. Mais bon, ce n'est pas la Simcha qu'on rend hein, seulement. C'est en fait on, quelque part de reconnaître Hachem. Je vous ai dit, d'une certaine manière, quand Hachem veut être reconnu comme roi, on est obligé de dire, c'est comme s'il se fragilisait un peu, puisque il n'y a de reconnaissance que si on peut dire le contraire. Et donc, d'une certaine manière, quand le clan d'Israël accepte Hachem comme roi, ben, il le fait exister d'une certaine manière. Voilà, c'est ça. Peut-être pour ça, si vous voulez, qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de culture juive. Parce que si la culture, c'est justement l'Eloka, l'Eloa des peuples, ben nous, on n'a pas d'Eloa, c'est Elohim qui joue ce rôle-là. Donc, il n'y a pas de culture juive. N'y a pas. Il n'y a pas de musique juive, il n'y a pas de peinture juive. Il n'y a pas, il n'y a pas. Il y a des juifs qui pratiquent certaines choses, mais ça, il n'y a pas de. Les juifs sont des, a priori, y a pas, c'est pas typiquement juif, en fait. Bon, alors je sais pas, en vérité, par exemple, sur la, c'était une des accusations de Wagner contre les juifs, quoi, contre la musique de Mendelssohn, etc. Alors, j'ai toujours dit comme ça, mais je sais pas, il y en a qui disent que la musique de Mahler, c'est une musique juive. Je ne sais pas. On s'est vu par Bernstein peut-être, mais je ne sais pas si c'est vraiment une musique juive. Mahler s'était converti, mais parce que tout le monde s'est converti. Pour être directeur de l'opéra de Vienne, il fallait être converti comme pour être professeur en Allemagne, etc. Tout le monde s'est converti, mais c'est. Bon, maintenant. Certains disent que c'est. Comment ça? Ils disent que Mahler, c'est un peu juif, quoi. C'est possible. Alors, dans ce cas-là, Wagner n'a pas raison et je ne sais pas. Peut-être c'est un juif qui a vraiment bien. Mais un juif, ça ne fait pas toute la musique, ça fait pas de la musique juive. C'est ça. Alors, le de devenir le âme segoula, le peuple trésor d'Hachem. Donc ça a une conséquence. C'est le titre Elion al kol agoyim, Asher Asa. Donc Hachem, en faisant cela, il nous a placés au-dessus de tous les autres peuples. C'est toujours dans la mesure où nous faisons ce que la Torah nous dit de faire. Tu vas devenir Am Kadosh l'Hashem Elokecha, ta chère d'hiver. Bon, avec tout ça, hein, oui. Ah non, c'est. Non, mais on pourrait avoir une. pour avoir une musique spécifiquement juive, et qui ne serait pas contraire à la Torah. Il y avait des chants, au Beth Amikdash, il y avait des chants, il y avait aussi un peu de musique. Maintenant, peut-être ça, mais c'est pas une musique juive, c'est une musique qui s'inscrit dans la Avoda. C'est peut-être pour ça, c'est parce qu'il n'y a pas de place pour ces choses-là en dehors de l'inscription de cela dans la Avoda. Eh bien, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de théâtre, mais David Amener, quand il était fait prisonnier, il a quand même joué du théâtre, il s'est fait passer pour fou et ça a marché. Sinon, il aurait été tué. Donc, il a réussi à se faire passer pour. Donc, c'est du théâtre, non? Oui, il a fait du théâtre parce que s'il n'arrivait pas à se faire passer pour fou, il serait mort. Il l'aurait tué, évidemment. Oui. Mais partie du. Il a sauvé sa vie pour pouvoir continuer de servir Hachem. Au moment où il se faisait passer pour fou, il n'était pas en train de servir Hachem. Il était en train de. Mais on peut dire, c'est pas un service direct, mais. Alors c'est un peu comme quand tu dors pour avoir la force d'étudier. Quand tu manges pour avoir la force d'étudier. Il s'est fait passer pour fou pour vivre et pour continuer de servir Hachem. Oui. Pardon? Changement de costume, sans arrêt. Alors, c'est pas fini. Vayetzav Moshe, Zikne Israël et Ta'am, les morts, Shamor, et Kol HaMitzvah, Asher Anochim et Tzavcha, Asher Anochim et Tzavé, et Hayom. C'est toujours un problème parce qu'on passe du tu à vous et. Alors, Moshe Rabbeinu et des anciens d'Israël, ils parlent aux Bnei Israël et ils leur disent, plus exactement, ils parlent au peuple et ils lui disent, au singulier encore, Chamor. Ça c'est, jusqu'à présent c'était pour chacun. Et là maintenant c'est à la collectivité, au peuple. Chamor et kol mitzvah asher anochi mitzaveh etchem hayom. Rashi dit, Shamor et kol la mitzvah, lashon hove, gardant. Ça se conserve bien, quoi. Vaya, bayom asher, ta'avu et ha'yarden. Et la haaretz asher Hashem Elokecha noten lach. Et Voilà, quand vous allez passer le Jourdain, et que le passage du Jourdain, c'est l'entrée en Eretz Israël, évidemment. Alors, Vakimotar, Lecha, tu vas dresser pour toi Avanim Gdolot, de grandes pierres, le Sabta Otam Basid, et tu vas y mettre de la chaux. Ce qui va te permettre d'écrire. Le Chatafalehet, et Kol Divrei à Torah Azot, tu écriras toutes ces paroles de Torah là, Be'ovrecha, quand tu passeras, Leman Asher Tavo El Haaretz, Asher Hashem Elokecha Noten Lecha, Eretz Zavatcha Lavudvash, Asher Diber Hashem Elokei Avotecha Lach. Et quand vous allez passer le Jourdain, vous allez dresser ces pierres. Je t'ai dit. Bon, alors. Alors, on a un peu l'impression que ces pierres, qu'est-ce que c'est que ces pierres? À quoi ça sert? Alors, Rashi dit, Va'akemot alecha, tu vas dresser pour toi, Bayarden, encore dans le Jourdain, et après tu vas les sortir, Hakar Totsi ou Misham Acherot, après tu vas en sortir d'autres, Vetivne Mehen Mizbeach Bahar Eval, tu vas construire un autel sur le mont Eval. Donc, dit Rashi, on parle de trois sortes de pierres. Il y en avait 12 dans le Jourdain lui-même. Autant à Gilgal et autant dans le Haréval. Donc certains disent qu'on a écrit sur ces pierres, on a tout écrit, certains disent à l'endroit, d'autres à l'envers, etc., pour que les goïms puissent venir et imprimer à partir de ce qui était écrit dans la chaux, de la Torah qu'ils sont censés connaître. A priori, on a plutôt l'impression que c'est une espèce de mezouzot de l'Eretz Israël, quoi. Les pierres là sur lesquelles il y a la Torah, aujourd'hui on ne met pas, dans la mezouza, il n'y a pas toute la Torah. Bon, on écrit quand même des partie de la Torah. Après, si le texte a l'air de dire, là, quand vous allez passer, là, vous allez quelque part, vous allez vous rappeler, quoi, une espèce de. C'est comme si on disait, la mezouza, c'est quand on passe là, c'est comme si on disait, voilà, tu entres ici, dans cette enceinte-là, cet espace-là, il est gouverné par la règle qui est affichée à l'entrée. Ça, une des fonctions de la mezouza. Nous rappeler, tu entres ici, et d'ailleurs, mais quand tu sors, n'oublie pas ce que tu as appris ou ce que tu as développé quand tu étais dans cet espace-là, dont la règle est la règle de la Torah. Voilà, on va s'arrêter là. Pardon? Écrit la Torah dessus. Alors, une des choses qui sont dites, c'est que comme c'est écrit dans la chaux, et ils vont plier un tissu, et donc ils vont avoir sur le tissu l'écriture. Le problème, c'est il y a un problème de. Ça ne sera pas à l'endroit. Alors, Bon, il y en a qui disent que bon, il faut. Après, on va réutiliser ça pour une deuxième fois pour le remettre à l'endroit, voilà. Ils sont. Oui, la Torah écrite, elle est à leur disposition. Peut-être c'est aussi important qu'ils sachent que dans cet espace d'Israël, bon, il y a une loi. C'est ça la loi. Pardon? Non. N'aurait pas de choix particulier. Ce n'est pas délimité. C'est à l'entrée, il n'y a pas sur les autres côtés. À l'entrée dans le Jourdain, c'est l'entrée. À l'entrée, on a mis la mezouza, elle ne délimite pas l'espace.
C'est à partir de là qu'on peut voir.
À partir de cette. Ici, à l'entrée, comme dans un hôpital, on vous dit dans cette pièce-là, il faut entrer avec un masque ou avec un équipement ad hoc.